Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de participer à notre émission en écoutant cette soirée. Notre invité donc est Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Avec Marie-Laurence, son épouse, il propose, à travers des parcours adaptés aux situations diverses de chacun, au sein de l'Institut de formation psychrétien, une aide thérapeutique permettant de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres, et cela dans la perspective d'être plus disponible pour accueillir l'action de Dieu dans nos vies et mieux aimer finalement. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors justement, notre sujet de partage, de dialogue ce soir... Comment sortir de la dépendance affective ou des dépendances affectives pour aimer en vérité? Voilà tout un programme.
Voilà, oui, parce que d'abord, la dépendance affective concerne beaucoup de personnes, alors à des degrés plus ou moins variables. Mm-hmm. Ça peut être très léger ou franchement pathologique. Simplement parce que nous avons tous des besoins affectifs. Alors, même si la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, ou du moins, on ne les vit pas comme une dépendance, il n'en reste pas moins vrai que ça va un peu dépendre, en partie, de l'environnement. Donc, il y a l'aspect personnel, on peut être plus ou moins indépendant affectivement, et puis après, l'environnement dans lequel on va se trouver va renforcer ou pas cette dépendance, suivant les circonstances.
Voilà, oui. Donc, on voit qu'il y a une part personnelle, mais aussi l'environnement...
Qui influence, parce qu'on est en interaction avec le monde.
Bien sûr.
Et puis, les événements qu'on vit viennent nous affecter.
Bien sûr. Hein? Alors, on est tous dans l'interdépendance avec les autres.
Bien sûr. Et on a besoin de relations familiales, affectives, sociales... mais ça veut dire que pour ça, on a besoin aussi d'aller vers des personnes qui pourront nous apporter cet amour ou cette reconnaissance, si c'est sur le plan professionnel, par exemple. Et du coup, on est quand même interdépendant avec les autres. Autant la dépendance... est un problème pour la personne, mais l'indépendance absolue, ça n'existe pas non plus.
Non. Hein?
Ou alors on est dans une illusion égotique de se croire complètement indépendant. Mmh. En fait, dans la réalité, on est interdépendant, on dépend les uns des autres. Le tout, c'est que ça ne devienne pas source de souffrance.
Cette interdépendance. Vous êtes.
Voilà, simplement, ne serait-ce que pour manger. On a besoin des agriculteurs, on a besoin du boulanger. Mais lui a besoin aussi de nous pour avoir son salaire.
Oui, bien sûr. Exactement. Donc, il y a une interdépendance et c'est très bien comme cela. C'est voulu. D'ailleurs, je crois, c'est dans le livre des Nombres, il me semble, ou Lévitique, où on dit que Dieu a mis son esprit. Il a donné telle chose à l'un, d'autre à l'autre, justement afin que on se complète, quoi.
Qu'on se complète, les dons en quelque sorte
sont
répartis différemment chez chacun. Mais c'est aussi ce qui nous permet
d'entrer en relation,
de créer la société. Et de vivre en société d'une façon harmonieuse, ou en tout cas aussi harmonieuse qu'on le peut.
Et donc de s'ouvrir aussi, quelque part.
Et de s'ouvrir aux autres, oui.
Parce que nous sommes les êtres sociaux, les êtres de communion, mais sur un autre plan, mais ça commence...
De communion et de relation.
Et de relation
les uns avec les autres. Et finalement, quand on regarde dans la dépendance affective, il n'y a pas vraiment relation. On développera tout ça après. Dans l'amour, il y a une relation. Dans la dépendance, on est dans le besoin, mais pas
dans un
relation,
échange véritable, quoi.
On pourrait presque comparer la dépendance affective avec la boulimie.
Un besoin,
sauf que dans la boulimie, c'est une pulsion qui pousse. Dans la dépendance affective, c'est plutôt quelque chose qui va agripper, qui va tirer vers soi.
Donc, vers l'ego, quelque part. C'est pas l'amour.
C'est pas vraiment de l'amour. C'est un amour possessif qui veut posséder l'autre. Mais l'autre, dans ce cas-là, n'est plus une personne, mais un objet.
Donc, c'est pas ça l'amour.
C'est pas ça l'amour.
Voilà. Donc, déjà, qu'on dit pour aimer en vérité, on voit ce que c'est que ne pas aimer en vérité, quoi. Parce que amour, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'amour? On emploie toutes les sauces.
En tout cas, ce n'est pas de posséder l'autre.
Voilà. Déjà, c'est pas de posséder l'autre.
L'amour se situe au niveau de l'être et de la relation et pas au niveau de l'avoir.
Voilà, donc c'est déjà une chose au niveau de l'être et de la relation. Alors, quelles sont les manifestations alors de la dépendance affective? Comment ça se manifeste?
Alors, ça peut être assez varié, et certaines personnes vont avoir quelques manifestations, d'autres beaucoup. Ça peut concerner la dimension plutôt intellectuelle ou plutôt affective. Alors, par exemple, d'avoir besoin de l'approbation des autres pour prendre une décision ou pour agir. Ça veut dire qu'on dépend de l'autre ou du regard de l'autre. Ça peut être le regard, l'approbation. Avoir des doutes ou des angoisses quand on doit prendre une décision seule. Ne pas supporter la solitude. Et ça peut aller jusqu'à des crises d'angoisse ou des crises de panique quand la personne se retrouve seule. Ou d'utiliser, pour justement éviter l'angoisse, des moyens d'évitement comme dormir. Dès qu'on rentre du travail, on mange, on dort. Boire, se droguer. Tout ce qui peut permettre, en quelque sorte, d'oublier la solitude.
Mais ça, on devient dépendant à ce moment-là aussi.
On déplace la dépendance affective sur une dépendance à une boisson, à une drogue, à un somnifère.
Toutes sortes de dépendances. Finalement, on fait un transfert sur...
On essaye de soigner une maladie par une autre maladie, finalement. En gros.
Oui, c'est ça.
Pour simplifier un peu.
Enfin, c'est pas tellement...
C'est pas ce qu'est le plus souhaitable.
Non, non, comme vous dites. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme manifestation ?
Rechercher ou avoir des relations fusionnelles.
Ah ben, voilà, on en parlait hier, oui.
Être en demande affective, alors quasi permanente, pour se sentir rassuré dans la relation. Ça, c'est les personnes qui vont sans arrêt demander à leur amoureux, à leur conjoint, est-ce que tu m'aimes, mais est-ce que tu m'aimes vraiment, voilà, et qui auront sans arrêt besoin d'être rassurés sur l'amour de l'autre. Mmh. Avoir besoin d'être aimé, reconnu, apprécié d'une façon excessive, parce qu'on a tous besoin d'être aimés, c'est quelque chose de normal. Mais quand ça devient vraiment une quête, que c'est de l'ordre vraiment d'un besoin important, pressant dans la vie de la personne, d'accepter de ne pas être respecté et même parfois maltraité par les personnes dont on dépendrait. Voilà, donc de quelque part d'accepter de se renier ou de ne pas se faire respecter pour privilégier la dépendance plutôt que le respect de soi-même.
D'autres manifestations.
Avoir des difficultés ou l'impossibilité de se séparer. Alors, ça peut être de sa famille, par exemple, pour les jeunes d'une vingtaine d'années. Au moment de... Alors, ça peut être de la famille, mais aussi du monde de l'enfance. Au moment d'entrer dans la vie adulte et dans la vie professionnelle. Donc, ça peut... Mais les deux sont liés. Le monde de l'enfance, c'est aussi, quelque part, la
famille.
La famille.
Oui, donc c'est en lien quelque part.
Voilà, et là on peut retrouver un certain nombre de phobies à ces périodes-là, ou de dépression, parce que c'est trop difficile de franchir le pas, de quitter la famille. Mais ça peut être aussi d'une relation qui ne fonctionne pas quand on est amoureux ou quand on est alors aujourd'hui en couple entre guillemets. Voire même d'une relation toxique. Il y a des personnes qui se font souffrir dans des relations et qui n'arrivent pas à changer ce mode de relation simplement par dépendance affective. Voilà, et puis quand les conditions qui pourraient rassurer la personne ne sont pas présentes, eh bien, elle va ressentir de l'anxiété, de l'angoisse, elle peut devenir jalouse ou agressive, et même certaines personnes vont jusqu'à la violence en lien avec, en tout cas, le risque de perdre la personne, mais on pourrait presque dire l'objet dont ils dépendent.
Ben oui.
Voilà, alors tout ça, c'est signe de dépendance affective. Mmh. Heureusement, une personne n'a pas tous ces critères-là. Mais voilà, mais...
Quand on
est dépendant affectif, on va en retrouver quelques-uns.
Alors, on va regarder, on va voir comment, ce qu'elle est, et puis comment on en guérit aussi.
Voilà, peut-être ça veut dire de commencer de parler par ce qui nous concerne tous, c'est-à-dire les besoins affectifs, pour mieux distinguer par rapport à la dépendance.
Voilà, qu'est-ce qui est besoin, qu'est-ce qui est dépendance. Alors on va parlons des besoins affectifs.
Voilà, et ça nous concerne tous. Tout le monde a des besoins affectifs et c'est quelque chose de normal. Et même le contraire, ne pas avoir besoin affectif, ça serait pathologique. Un bébé a besoin d'environnement suffisamment bon pour se développer normalement et même pour vivre. Un enfant qui ne recevrait pas du tout d'affection se laisserait mourir. Donc c'est vraiment vital. Un enfant a besoin de se sentir aimé, sinon il va pas grandir normalement. Et puis, les adultes, nous aussi, on a besoin de se sentir aimé et apprécié, tout comme on a besoin aussi d'aimer les autres.
Bien sûr.
Et tout ça, c'est normal et c'est présent tout au long de la vie.
Ça fait partie de notre humanité.
Ça fait partie de l'humanité. Mmh. On a besoin et de donner de l'affectivité et d'en recevoir. Mmh. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, quel que soit notre âge.
Il y a un échange. C'est une...
Voilà, on est dans l'échange, dans le donner et recevoir. Mmh. Alors d'affection, d'amour, de tendresse, d'amour sous toutes les formes finalement, quel que soit notre âge, et ça varie bien sûr en fonction des périodes de la vie, mais du tout petit enfant au vieillard, les besoins affectifs sont présents.
Alors... Et on voit bien combien les manques affectifs peuvent engendrer des difficultés.
Oui, alors ponctuellement, ça peut arriver, c'est supportable. S'ils sont réguliers ou chroniques, ça va engendrer d'abord des frustrations et des difficultés psychologiques, mais voire même des difficultés de santé. Alors souvent, on pense en premier lieu à la dépression, voilà, quand on est seul, par exemple, et qu'on se sent pas aimé, qu'on n'a pas d'amour autour de nous, on peut déprimer. Mais il y a aussi toutes les somatisations, donc un certain nombre de problèmes physiques, qui vont exprimer d'une façon masquée aussi la frustration par rapport aux besoins affectifs. Et puis, ça peut parfois mener à la mort. Voilà, par exemple, chez la personne âgée qui se retrouve seule, qui n'a plus ses besoins affectifs assouvi en quelque sorte, et qui va progressivement se laisser mourir. Alors, c'est pas une mort brutale, c'est la personne, parce que elle ne trouve plus satisfaction à ses besoins affectifs, va se laisser mourir.
Ça participe de la vie, en fait. Donc, il n'y a plus ce mouvement de vie.
Et si on n'a plus d'échange avec les autres, eh bien, soit on a des troubles physiques, soit on a de la dépression, ou on peut aller jusqu'à se laisser mourir.
Merci Pascal Parinet. Donc, comment sortir de la dépendance affective pour aimer en vérité. On va écouter tout de suite, Judith Anne Robertson. Et le titre, ça tombe juste, J'ai besoin d'amour.
Radio Notre-Dame. Car tu m'as crié.
Judith Anne Robertson, j'ai besoin d'amour. Alors, voilà, pour aimer en vérité, nous voyons comment sortir des dépendances affectives. On a vu les manifestations et puis nous parlons là des besoins affectifs, oui. Hein, puisque tout le monde a ses besoins, a des besoins affectifs. Et si
s'il y a un manque chronique, en tout cas, il faut que ça soit un manque qui dure, eh bien, ça crée des problèmes soit psychologiques, soit même de santé physique.
Que ça peut, même si on se laisse, on n'a pas de contact, personnes âgées peuvent se laisser mourir.
Oui, les bébés ou les personnes âgées,
c'est ça, ouais,
peuvent se laisser mourir. Mm-hmm. Voilà, parce que on a tous besoin de savoir qu'on compte pour quelqu'un, que quelqu'un nous aime, tout comme on a besoin d'aimer quelqu'un aussi. Et voilà, que ça soit dans notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, nos conjoints, nos enfants, ou des amis, des collègues. Voilà, oui. Comme la chanson le disait, on a besoin d'amour.
Oui, on a tous besoin d'amour, voilà.
Voilà. Alors, bien souvent, on n'en a pas tellement conscience ou on ne se pose pas trop la question parce que ces besoins sont satisfaits. Et ils sont satisfaits parce qu'on trouve dans notre entourage eh bien, les personnes qui peuvent répondre à ce besoin d'amour ou d'être aimé ou de reconnaissance. Mais parfois, on peut ressentir à certaines périodes, par exemple, une frustration quand on a l'impression de manquer de reconnaissance au travail. On va se sentir un peu frustré ou on va dire « j'en ai marre, on ne reconnaît pas mon travail », voilà. Et puis, quand on est seul aussi sur le plan affectif, par exemple, je pense à certains célibataires qui vont ressentir le manque de pouvoir donner et recevoir de l'amour. Mais chez certaines personnes, ça devient quelque chose de beaucoup plus criant. Et dans ce cas, ça devient obsessionnel en quelque sorte, c'est-à-dire que on passe d'un besoin normal relationnel à un besoin obsessionnel, et d'ailleurs qu'il y ait relation ou pas, finalement ça n'échange pas la personne dépendante, même quand elle est en relation, son besoin n'est pas assouvi, il reste présent.
Le besoin reste présent parce que
Parce que on n'est pas dans l'ordre d'un besoin classique, mais on est dans l'ordre de la dépendance et donc de quelque chose.
On en veut toujours plus. Enfin, on a besoin. Voilà. Enfin, comme une drogue, quoi.
Oui, c'est. Alors derrière, il y a une anxiété. Ça veut dire on a besoin en permanence d'être rassuré sur l'amour de l'autre.
Donc on demande sans cesse.
Voilà, la personne est sans arrêt en demande. Ce qui est différent d'aimer, où il y a un échange.
Et oui.
Là, c'est vraiment... alors, même si les personnes diront qu'elles aiment, que... Mais en fait, elles aiment d'une elles aiment d'une façon possessive.
Oui.
Mais pour se garantir, en quelque sorte, d'avoir l'amour de l'autre. Donc, elles essayent de posséder l'autre pour posséder
son, ce qui n'est pas le meilleur moyen, sans doute.
Ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen.
Parce que l'autre,
On va voir. Il va réagir différentes façons, pas dans la façon souhaitée.
Attendue, oui. Ouais. Alors, donc...
Voilà, on peut comparer l'absence de nourriture affective.
Oui.
Tout à l'heure, je comparais à la boulimie, au fait de manger, un peu à l'absence de nourriture physique. C'est-à-dire, on a besoin d'être nourri affectivement, tout comme on a besoin d'être nourri physiquement. Et si ça vient à manquer, ça va déclencher une recherche de satisfaction. Voilà. Si on a faim, si ça fait une journée qu'on n'a pas mangé, on va se mettre en quête, on va aller dans le frigo, dans les placards, chercher qu'est-ce qu'il y a à manger.
Parce qu'on a faim.
Qu'on a faim. Eh bien, mais si on ne trouve pas, ça va devenir une obsession.
Eh oui, oui, oui.
Voilà, quelqu'un qui serait dans le désert, ça devient une obsession de manger, ce qui est normal.
Même ou de boire, il y a des mirages, les mirages.
Et à l'extrême, on rentre dans les troubles physiques ou psychiques, plutôt psychiques, avec des mirages. Bien, dans la dépendance affective, on est du même ordre. Voilà, on a des besoins, on a besoin de nourriture affective, on va aller la chercher dans l'environnement. Si on la trouve pas, ça devient obsessionnel, et si on la trouve pas du tout, ça crée des troubles psychologiques.
Alors, ça devient obsédant, quoi, ça mène à...
Ça mène à des comportements inadaptés et puis surtout, très souvent, à des impasses sur le plan affectif, c'est-à-dire que ça produit l'effet inverse de ce que voudrait la personne.
Oui, c'est ça. Ça fait... Au lieu de... l'autre fuit, il y a différentes réactions. Alors, justement, qu'est-ce qui est... On va voir qu'est-ce qui est... pathologique dans la dépendance affective, parce que ça peut devenir pathologique.
Oui, on peut même dire que, suivant l'intensité, ça va du besoin normal à quelque chose de très pathologique. Ça peut être un peu pathologique, beaucoup à la folie.
Finalement, il y a beaucoup de troubles psychopsy ou qui peuvent commencer, même dans les hôpitaux psychiatriques, qui peuvent commencer par une dépendance affective et qui n'est pas un besoin qui devient obsédant qui perturbe complètement.
Alors, oui, en tout cas, après, faut distinguer. Mais en tout cas, sans doute qu'on est dans une société qui favorise la fragilité affective. Autant quand on vivait, quand les gens vivaient en village, en petite communauté, finalement, où tout le monde se connaissait.
Oui, voilà. Il y avait des relations.
Il y avait forcément des relations les uns avec les autres. Même une personne seule, ben, elle n'était pas isolée, elle était quand même en lien. Aujourd'hui, dans nos grandes villes, on peut facilement vivre seul et pas croiser ses voisins parce qu'ils rentrent tard et du travail.
Un isolement qu'on ne connaissait peut-être pas autrefois dans les...
Voilà, avec, avec la taille des villes, avec aussi la présence ou l'omniprésence du travail dans la vie des personnes. Avant, les rythmes de travail, c'était à peu près les rythmes solaires. Aujourd'hui, il y a plus trop de limites. Donc, il y a tout ça, le manque de connaissance de ses voisins. Ce qui explique d'ailleurs, alors il y a l'aspect technologique, mais aussi le succès des réseaux sociaux, parce que les gens vont chercher quelque part
ce qu'ils trouvent plus
dans leur environnement et dans la réalité. Ils vont le chercher dans le virtuel. Et sur Facebook, on a des amis qu'on ne connaît pas, qu'on ne verra peut-être jamais, mais ce sont des amis.
On les appelle comme ça, oui. Ce sont des relations. Est-ce qu'on peut appeler ça relation?
Il
y a virtuel.
Alors, il peut y avoir les relations proches, les vrais amis. On communique et on partage des choses. Et puis après, il y a tout un cercle de gens qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on rencontrera jamais. Donc c'est pas vraiment une relation, c'est complètement virtuel et finalement, alors peut-être que ça vient combler quelque chose que notre société ne permet plus de trouver dans la réalité.
Mais qui peut être une dépendance.
Ça peut
créer une dépendance.
Ça peut créer une dépendance. Et il y a des gens qui passent énormément de temps sur Facebook, à la fois pour soigner leur image. Donc il y a l'aspect narcissique. Et puis aussi pour trouver des amis, communiquer avec.
Mais à partir de vraiment quelque chose
qui est virtuel. Alors c'est pas ça qui crée la dépendance. Ça veut dire que le besoin est déjà là, qu'il y a une certaine dépendance et que la personne va la transférer en quelque sorte ou essayer de trouver une solution à sa dépendance affective au travers des réseaux sociaux.
Bon, voilà, c'est... derrière les réseaux sociaux, voilà, il peut y avoir tout cela, quoi.
Aussi, oui. Alors, voilà.
Alors, justement, qu'est-ce qui est... Oui.
On disait ce qui est pathologique dans la dépendance affective. Ben, le premier aspect, c'est l'aspect chronique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui dure. C'est pas ponctuellement un jour je suis seul et je m'ennuie, j'ai besoin de voir du monde. C'est quelque chose qui est chronique. Ensuite, il y a l'intensité de la demande affective. Et ça, c'est vrai pour tous les troubles, d'ailleurs, psychologiques, s'il y a une question et d'intensité et de chronicité. Après, il va y avoir des comportements inadaptés, souvent répétitifs et qui mènent à des échecs.
Ah oui, inadaptés et répétitifs, oui.
Oui, c'est-à-dire que la personne va, face à sa dépendance, adopter certains comportements
qui ne sont pas adaptés,
par exemple de s'agripper à l'autre, d'essayer de nouer des relations fusionnelles avec des personnes qui n'ont pas envie d'être en fusion. Donc ça, c'est inadapté. et puis d'une façon répétitive comme ça dans sa vie, ce qui fait qu'elle va cumuler en quelque sorte des échecs. Le fait d'attendre que l'autre vienne combler son manque.
L'autre ne peut pas combler le
l'autre
manque.
L'autre ne peut pas combler le manque. Et enfin, de ne pas assumer la responsabilité de ce besoin, puisque c'est un besoin humain réel, mais de ne pas l'assumer et donc d'être dans des mécanismes d'évitement de ce besoin, ce qui crée aussi la dépendance.
Évitement du besoin, de ce besoin, alors que c'est un besoin.
Alors que c'est un besoin.
Donc il y a là un double...
Voilà, ça serait un peu comme dire j'ai pas besoin de manger, mais d'être tout le temps en quête de nourriture. Mais refuser de reconnaître qu'on a ce besoin de manger.
Ben oui.
Ben là, c'est pareil. La personne a... Nous tous, nous avons des besoins affectifs. Dans la dépendance, la personne n'assume pas en quelque sorte ce besoin. Elle fait comme si elle l'avait pas vraiment, mais il est criant.
Alors, qu'est-ce que... comment va réagir une personne dépendante, effectivement? On va voir ça dans quelques instants, parce que je vois que Guillaume me fait signe pour me rappeler que c'est le moment d'écouter, eh bien, c'est Isabelle Boulay, Celui qui dort. Celui qui dort, non, Celui qui dort avec moi, pardon. Celui qui dort avec moi.
Radio Notre-Dame.
Existe, tiens là, éclairé comme au ciel. Le lit sous un toit et la maison est belle. Aux fenêtres ouvertes, on sait qu'il y a quelqu'un. Que la vie s'est offerte en soufflant sur sa main. Simplement au nom de tous les rêves. Celui qui dort avec moi, c'est avec lui que je dors, doré de lumière. Comme le trésor d'un roi, comme un filet de voix, c'est avec lui que je dors, tous ces silences. Tiens là, rempli d'un éternel. Il ne peut pas faire froid, on chauffe à l'étincelle. La nuit revient demain dans la chambre derrière. On se réveille à moins que dormir on préfère. Simplement non. Avec lui que je dors, doré de lumière, comme le trésor d'un roi, comme un filet de bois, c'est avec lui que je dors, tous ces silences en moi, ce qui existe tient là pour nous. Avec lui que je...
Voilà, donc Isabelle Boulay, celui qui dort avec moi. Ce soir, nous parlons de dépendance affective, comment en sortir. Hein, la question, comment en sortir pour aimer en vérité. Alors, une personne qui est dépendante affectivement, comment elle réagit, comment elle voit les choses, enfin.
Souvent, elle pense qu'elle fait tout pour que ça se passe bien. Pour que la relation fonctionne, ça veut dire qu'elle va être serviable, elle va faire des efforts, même elle va se sacrifier.
Où se situe le problème qu'elle ne perçoit pas?
Ce qu'elle ne perçoit pas, c'est que ce n'est pas adapté. Que c'est un comportement inadapté dans une relation d'égal à égal. Souvent, elle en fait trop, ce qui fait aussi l'aspect inadapté. C'est-à-dire que elle va, les jeunes disent être collante. Mais ça montre bien le type de relation. Donc elle va être collante. En plus, souvent la personne va être dans la plainte si on ne reconnaît pas
à son idée
ou du moins suffisamment à son idée, tout son dévouement, tout son amour. Et puis, si ça va encore un peu plus loin, eh bien, elle va être dans l'angoisse si ça marche pas. Et même faire des reproches aux autres. Que après tout, elle fait tout pour
que ça marche.
Et puis
ça marche
pas. Oui, elle fait tout pour les autres.
Et puis c'est pas reconnu.
Et lui rend pas.
Elle pense que il n'y a pas de problème de son côté, donc c'est l'autre.
Dans la dépendance, c'est souvent l'autre qui répond. Enfin, l'impression de la personne,
c'est la faute de l'autre, quoi, disons.
C'est la faute de l'autre, c'est pas elle qui en fait trop d'une façon inadaptée, c'est que l'autre ne voit pas tout ce qu'elle fait de bien. Ce qui fait que ça ne l'aide pas à résoudre sa difficulté, parce que si c'est l'autre qui ne répond pas et non pas elle qui a un comportement inadapté...
Ça ne peut pas bouger.
Ça ne va pas bouger. Souvent, le plus gros problème, c'est que l'autre perçoit cette demande qu'il ne peut pas combler, finalement. Ce qui provoque une mise à distance et parfois même du rejet ou de repousser la personne. Et du coup, ça fait une boucle. Il y a un manque, un besoin insatisfait, une demande inadaptée, un rejet, ce qui va encore augmenter le manque. Ça va continuer dans ce système-là.
Une spirale, en fait. Alors, quelle est l'origine aussi de la dépendance affective?
La plus grosse origine, c'est quand même dans l'enfance. Ça peut être aussi un peu dans l'adolescence, mais ça veut dire que déjà dans l'enfance, il y avait quelque chose. L'origine principale, ça va être la symbiose mère-enfant. Que va chercher à recréer la personne pour lutter contre son angoisse de séparation. Donc, elle essaye de retrouver une symbiose parce que la séparation l'angoisse.
Bernadette Lemoine parle beaucoup de l'angoisse de séparation.
Voilà. Oui, mais c'est une angoisse qu'on retrouve dans beaucoup de problématiques de l'adulte, l'angoisse de séparation. Ou en tout cas, cette période-là. Ça peut jouer dans différents registres, mais cette période est importante.
Et ensuite...
Alors, avec cette séparation, il y a aussi l'impossibilité d'être seul. et donc qui va se vivre dans la dépendance. Et ça, on voit ça avec les petits-enfants. Au début, ils sont en symbiose. Après, ils acceptent d'être dans la même pièce que la personne, mais il faut qu'il y ait la présence. Oui. Si la mère va dans une autre pièce, par exemple, le bébé va se mettre à pleurer. Et puis après, progressivement, il accepte d'être dans une autre pièce. Et puis après, il a envie d'aller jouer dehors.
Voilà, c'est lui qui veut prendre, qui veut explorer. C'est bon, finalement.
Voilà.
Il prend une certaine autonomie.
Voilà, dans la dépendance affective, ça peut être soit complètement collé à la mère, soit avoir besoin de la présence, c'est-à-dire être dans la même pièce pour pouvoir vivre d'une façon rassurée.
En tout cas, oui, la personne a des difficultés à supporter la séparation.
Voilà. Et alors, dans certains cas, ça va être une angoisse de vide, c'est-à-dire que la séparation va renvoyer au vide. Et là, on est dans des choses assez archaïques. Le plus souvent, c'est la question d'avoir une présence un peu permanente, rassurante et aimante, parce que c'est la solitude de la séparation qui n'est pas supportable. Voilà, et puis, ça s'enracine aussi dans le fait que l'enfant, quand il va découvrir sa dépendance, justement en lien avec le fait de grandir et de se séparer de la mère, c'est une période qui est très angoissante pour l'enfant, mais qu'il franchit avec une réassurance nécessaire. Et voilà, et c'est ce processus-là qui se reproduit, c'est-à-dire que la personne se trouve un peu dans cette période où elle a besoin sans arrêt, comme un enfant, d'être assurée sur l'amour et la présence de l'autre. Voilà, alors ça peut venir aussi de carences affectives dans l'enfance liées à un environnement qui serait pas assez bon, ça arrive... dans les cas de maltraitance, mais pas forcément de maltraitance, en tout cas un environnement qui n'apporte pas ou qui ne comble pas assez les besoins affectifs de l'enfant. Mais à l'inverse, ça peut être aussi une surprotection qui empêche l'enfant de vivre ses propres expériences et donc de devenir autonome.
Donc il reste dépendant.
Et puis parfois, même au-delà de la surprotection, ça peut être de l'emprise, alors soit sur l'enfant, soit sur l'adolescent, qui l'empêche de grandir et de devenir autonome. Voilà, et puis il arrive aussi à l'adolescence, comme je le disais dans certaines phobies, que le jeune n'arrive pas à prendre son envol et à aller vivre sa vie d'adulte, et qu'il reste dépendant d'abord à la famille et puis après il va chercher d'autres figures dans l'environnement, mais auxquelles
il transfère dans une autre. Ouais. Donc il reproduit en fait une situation.
Voilà. Ce qui reste constant, c'est la dépendance, mais qui pourra se jouer soit dans la famille, soit avec d'autres personnes de son environnement.
Alors, on voit là quelques points qui mettent en lumière des points d'ancrage de dépendance affective. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ?
Alors, d'abord, c'est qu'il y a une anxiété et une insécurité de base. Et c'est cette anxiété-là qui est à traiter. Que la personne dépendante n'a pas pu s'autonomiser sur le plan affectif. Ce qui fait, c'est le propre de la dépendance, c'est de ne pas être autonome affectivement. qu'on va retrouver des mécanismes d'adhésivité ou d'agrippement pour éviter la séparation. Alors ça, ce sont des mécanismes de l'enfance, hein, d'être collé ou de s'agripper.
Ah oui, comme l'enfant. Hein,
ce sont vraiment des mécanismes psychiques, mais aussi physiques, qui permettent d'éviter la séparation parce qu'elle est vécue comme dangereuse ou comme angoissante. Qu'avec ça, il y a un manque de confiance en soi et une mauvaise image de soi. Que la personne dépendante est à la recherche d'une image, mais d'une image idéale ou imaginaire sur laquelle elle va se reposer pour être prise en charge. Et que ce que la personne cherche à éviter, c'est justement la perte du lien fusionnel, c'est-à-dire la séparation, qui pourrait mener au minimum à de l'angoisse et parfois à la dépression.
Donc elle va pouvoir rechercher continuellement un objet de fusion, quoi.
Oui, oui.
Même si l'un ne fonctionne pas, elle trouvera autre chose.
Voilà, c'est ça. Dès qu'une relation ne fonctionnera pas, alors il peut y avoir plusieurs mécanismes. Ça peut être d'entrer dans un conflit. Comme la jalousie ou la violence qui va conserver un lien, mais destructeur, mais qui conserve le lien, ou alors passer de relation en relation dès qu'elle perçoit que la fusion ne fonctionne pas ou quand la fusion s'arrête, eh bien, elle va chercher une nouvelle relation fusionnelle et ainsi de suite.
Ce que ressent la personne dépendante
Oui, finalement, c'est un manque en elle dont elle connaît pas l'origine. Elle ressent ce manque, mais elle ne sait pas d'où ça vient, et surtout, elle cherche à l'éviter. Et elle cherche dans l'environnement quelqu'un qui va venir combler ce vide. Et qu'il la prenne en charge. Le problème, c'est que c'est pas possible. L'autre ne peut pas combler nos manques ou combler le vide qu'on peut sentir en soi.
Donc c'est une illusion.
Mais tant que la personne n'a pas trouvé quelqu'un, elle va vivre dans l'angoisse. Et quand elle trouve, quand elle arrive à recréer une relation fusionnelle, elle va se sentir rassurée pour un temps, mais pour un temps seulement.
Voilà, après, ça sera recommencé.
Voilà,
ou en tout cas, il y a toujours
à être réassuré en permanence.
Un grand merci, Pascal Parinet. Je rappelle à nos auditeurs le téléphone 01 56 56 44 00. Comment sortir de la dépendance affective pour aimer en vérité? On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Écoute dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir, avec Pascal Parinet, nous parlons des dépendances. Et puis, pour aimer en vérité, pour être libre, ouais. Pour aimer. Est-ce que vous avez, Pascal Parinet, justement des pistes dans les prochaines...
Alors, on a un stage. Voilà, qui... Donc, sur la dépendance affective, donc, qui s'appelle « Sortir de la dépendance affective
voilà, ». C'est tout à fait le sujet, oui.
Les 23 et 24 mai.
23 et 24 mai, d'accord.
Voilà, oui. et un stage sur la confiance en soi. Parce que finalement, il y a aussi un problème de confiance en soi dans la dépendance affective.
Donc on essaie de se rassurer auprès de l'autre.
Oui, début juillet. Alors ça doit être 3 et 4 juillet, je crois. Je dis ça de mémoire.
Début juillet, oui. Voilà. On peut rappeler peut-être le...
Alors le téléphone, c'est le 06 60 oui. 15... 79 60
06 60 15 79 60
voilà, ou le site internet c'est ifpsy.com
ifpsy, donc tout attaché, ifpsy.com. Voilà, donc pour ces deux stages, hein, sortir de la dépendance affective 23 et 24 mai, et puis confiance en soi, début juillet, 3-4.
Voilà.
C'est-à-dire,
c'est un lundi-mardi.
Lundi-mardi, voilà. Donc, c'est lundi-mardi.
Ça vérifié. Doit être le premier lundi de juillet. De juillet.
Alors, donc, on continue avec voir un peu le problème, enfin, cette insécurité, hein, vous parlez de cette insécurité de base. L'anxiété, hein, souvent que la personne essaie de se raccrocher
à une personne. Mmh. Alors le problème, c'est que l'autre va percevoir ce manque et va sentir qu'il ne peut pas le combler.
Oui.
Et du coup, il va essayer de retrouver ou de remettre une bonne distance.
Oui. Surtout si la personne est collante, c'est pas... confortable à vivre, c'est désagréable pour la personne.
C'est désagréable, il va se sentir soit étouffé, soit emprisonné. Soit...
Comment la personne va-t-elle faire alors? Elle va essayer de retrouver une bonne distance, comment va-t-elle faire?
Alors, soit elle va chercher au plus vite une autre personne qui acceptera la fusion, soit elle va maintenir un lien au travers de la jalousie, s'il y a déjà une relation d'établie, et parfois même dans la violence.
Alors on trouve ça, évidemment, dans les liens conjugaux.
Alors on trouve ça aussi dans les liens conjugaux et dans certaines couples de crise, crise de couple, quand il y avait une relation très fusionnelle et qu'il y en a un qui s'autonomise un peu ou qui prend un peu de distance ou qui veut avoir ses propres activités, par exemple.
C'est mal vécu par la personne.
Et que ça fait angoisser l'autre parce que l'autre est dépendant. Et à ce moment-là, ça peut créer vraiment des difficultés, voire une crise dans le couple.
Ouais. Quand ça n'évolue pas de la même façon.
Voilà, mais qui peut être résolu dans la mesure où il y a un changement de mode de fonctionnement. C'est-à-dire que le couple, à ce moment-là, a à apprendre d'abord à sortir de la fusion et à être en relation, mais dans une relation d'altérité et non pas de fusionnelle.
Et si les deux, ou si l'autre répond par la même fusion, ça ne doit pas fonctionner longtemps?
Alors, ça peut durer les fusions, hein.
Pas toute une vie, si.
Il y a quelques couples qui vivent dans la fusion toute une vie. Dans la mesure où ça convient aux deux, et qu'il n'y a pas un moment des activités qui divergent ou que l'autre voudrait faire, qu'un des deux voudrait faire seul. Voilà, ça fonctionne, ou que le couple trouve son équilibre dans la fusion, ça peut durer. Mais quand, souvent quand même, parce que le couple évolue avec les personnes évoluent, donc
pas
le couple
n'est
pas
rythme,
forcément au même rythme. Et donc souvent il y a un risque de crise. Et en tout cas, de trouver un autre mode de fonctionnement. Alors, ça peut être soit vers 35-40 ans, quand les personnes deviennent vraiment matures, soit à la cinquantaine, quand les enfants s'en vont, où ça va modifier l'équilibre familial. À ce moment-là, le couple a besoin de trouver une autre façon d'être en relation, de vivre. C'est pour ça qu'il y a souvent les crises de couple.
De la cinquantaine aussi.
Voilà, correspondent à ces périodes. Où il y a des évolutions dans l'identité des individus.
Alors, tous ces aspects vont donner les émotions vont
une
être...
Une grande sensibilité émotionnelle.
Oui, oui.
Voilà, parce que ça se joue un peu entre fusion et angoisse.
Ah oui.
Donc... ça rejoint un peu la passion, par certains aspects, peut-être avec moins de violence, mais dans la passion, il y a une dépendance aussi affective.
Mais est-ce que c'est exactement, c'est pas tout à fait pareil, passionnel et
fusionnel? C'est pas tout à fait pareil parce que la passion est pulsionnelle. C'est-à-dire, ce qui est en jeu, ça va être toutes les pulsions des personnes, mais qui crée aussi une dépendance affective ou physique, parfois. Dans la dépendance affective, l'aspect pulsionnel est moins présent.
Dans la dépendance fusionnelle, la fusion, c'est ça ?
Dans la fusion affective, oui, l'aspect pulsionnel est moins présent que dans la passion, où c'est vraiment la pulsionnel avec des hauts, des bas, des déchirements.
Donc, c'est pas du tout le même registre.
Non,
même si les symptômes...
Mais dans les deux cas, on va retrouver
les attitudes...
À la fois la dépendance... Et à la fois l'angoisse quand il y a éloignement. Voilà, c'est assez similaire, mais vécu sur un mode plutôt d'un besoin à satisfaire, enfin dans les deux cas d'ailleurs, dans la passion aussi. Mais dans un cas, c'est pulsionnel, donc ça pousse. Dans l'autre cas, c'est plutôt qui agrippe.
Ça pousse, ça tire.
Qui essaye d'attirer à soi ou alors qui va vers l'autre.
Ah ouais. Et il peut y avoir les deux, non ? Non ? Non, c'est...
Dans les deux cas, il y a une dépendance affective de toute façon.
Oui.
Quelqu'un qui vit une passion amoureuse et dans la dépendance affective... Et dans la dépendance affective pure, voilà.
Et de toute façon, il faudra en sortir, trouver un équilibre d'une autre.
D'une façon ou d'une autre, il faut en sortir en trouvant un équilibre. Et le seul équilibre possible, c'est d'accepter la séparation, c'est-à-dire que toute personne est un être séparé.
Oui.
Depuis la coupure du cordon.
Oui, c'est ça.
Et puis l'altérité. Voilà. Donc c'est la capacité à vivre seul, de trouver sa capacité à vivre seul et d'avoir la capacité à être dans l'altérité relationnel.
Mais pour pouvoir être dans l'altérité, il faut apprendre à vivre seul.
Oui, les deux vont ensemble. Mmh. Les deux vont ensemble.
Oui. Donc, vous parlez de sensibilité émotionnelle, c'est une chose, ça, mais qu'est-ce que... Que recherche la personne chez l'autre dans ce cas-là?
Alors, ce qu'elle recherche, c'est une sorte de self-support, c'est-à-dire que les personnes se visent un peu, où elles vivent leur manque ou leur vide, comme un peu comme un vase qui n'aurait pas de fond.
Ah oui.
Et du coup, elles vont chercher chez l'autre un support qui leur donne l'impression d'avoir un fond ou un socle solide. Mmh. On parle de construire sa maison sur le roc.
Oui.
Voilà. Sinon, on a l'impression, si c'est dans le sable, de s'enfoncer.
C'est ça. Là, on cherche un roc solide. Ça peut être une illusion, bien souvent. Parce que c'est pas l'autre qui va...
Parce que c'est pas l'autre qui peut être notre roc.
Non. Il faut trouver en soi sa colonne vertébrale. Base.
Voilà. Alors, ce qui fait qu'à travers ça, finalement, ce qu'elle cherche chez l'autre, c'est d'être portée.
Comme un enfant.
Comme un enfant. Avec sentiment vraiment d'être porté. Donc, il y a quelque chose de solide qui porte, comme on porte un enfant.
Mais peut-être que parce que la personne n'a peut-être pas été portée dans l'enfance.
En tout cas, elle n'a pas trouvé sa portance.
La portance, voilà. Mais...
Ça, parce que on est porté un certain temps
par les parents.
Et puis à un moment, on se porte soi-même. Et c'est ça, c'est son self-support qu'elle n'a pas réussi à trouver et qu'elle va rechercher en permanence à l'extérieur d'elle.
C'est ça, voilà, oui. Ouais. Et sans trouver, puisque ce n'est pas là où elle fait... Ça pose tous ces problèmes de dépendance.
Oui.
Alors, vous parliez tout à l'heure de sensibilité, une grande sensibilité émotionnelle. Ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'il en est du ressenti? Parce qu'il peut avoir une grande sensibilité.
Finalement, c'est assez paradoxal parce que la personne a une grande sensibilité émotionnelle, mais surtout dans l'angoisse. Mais elle a peu de ressenti en dehors de cette angoisse ou de l'anxiété.
C'est ça. Donc elle ne ressent pas.
En tout cas, elle ne ressent pas vraiment en dehors de l'angoisse ou de la réassurance qu'elle trouve. Et puis surtout, elle n'a pas conscience de ce qui cause son angoisse, pas plus que des sentiments et des pensées qui l'animent. C'est-à-dire que quand une personne en général, si elle ressent de l'angoisse, elle peut faire des liens avec ce qui l'angoisse, avec dans la dépendance, elle fait pas forcément les liens. Elle va ressentir l'angoisse, mais après elle va avoir besoin d'être rassurée par l'autre sans faire vraiment les liens de ce qui l'angoisse ni pouvoir mettre des mots dessus.
Ah oui, donc parce que c'est inconscient.
Voilà. Et finalement, on peut dire qu'elle est coupée de ses émotions, de ses ressentis. Elle a peu conscience de son corps, en dehors des périodes d'angoisse.
Elle voit pas, elle connaît pas ses vrais besoins.
Elle ne connaît pas ses vrais besoins. Elle n'est pas consciente de ce qui l'anime et finalement, elle demande à l'autre de lui apporter ce qui lui manque, c'est-à-dire que ce type de personne vit par rapport au manque et non pas par rapport à ce qu'elle a. Et du coup, elle ressent le manque, mais elle ne ressent pas le besoin.
Ah oui.
Ce qui est pas...
Elle sent le manque, mais elle sent pas le besoin.
Oui. Ou en tout cas, elle prend pas conscience du véritable besoin.
Enfin, elle sent un besoin de l'eau, enfin, de... Puisque, non, on ne peut pas appeler ça un besoin.
Non, c'est plus le manque.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Ce qu'elle ressent, c'est le manque lié à la séparation et donc l'angoisse du manque. Mmh. Et elle va chercher chez l'autre qui vienne combler le manque.
Ah oui.
Mais elle ne ressent pas vraiment un besoin d'être en relation ou un besoin affectif.
Mmh.
Ce qu'elle ressent, c'est son manque, c'est pas son besoin.
D'accord, oui. Ah.
C'est un peu comme le négatif photo et la photo.
Ah, ouais.
Ce que la personne perçoit, c'est pas l'image qui est sur la photographie, mais le négatif.
Mmh.
Et là, ce qu'elle perçoit, c'est pas son besoin affectif, mais ce qui serait positif et lui permettrait de le résoudre.
Mmh.
Mais le négatif, le manque de satisfaction de ce besoin.
Mmh. Alors, quand l'autre ne lui apporte pas, alors justement ça, qu'elle cherche. Hein.
Voilà, va ressentir le vide.
Mmh.
Avec parfois chez certains un effondrement. Une sensation de s'effondrer ou une angoisse de s'effondrer. Et puis, une perte de contact avec l'environnement. C'est-à-dire que finalement, la personne n'est pas en contact. C'est le problème de la dépendance, c'est qu'il n'y a pas une vraie relation. Comme il y a fusion... Si la fusion se fait pas, il n'y a pas de contact avec l'autre.
Ah oui.
Dans la relation, il y a une interaction qui crée du contact.
Mmh.
Voilà. Et là, elle va avoir l'impression de pas être en contact avec l'environnement, d'où la recherche d'agrippement, de coller, au lieu de trouver le moyen d'être en relation.
Oui, c'est ça. Alors, sur quoi parce que dans cette... la personne n'est pas en contact avec son corps, mais pas non plus avec l'environnement.
Mmh. Mais en même temps, elle évite ce contact parce qu'il est trop anxiogène.
Ouais.
Et du coup, elle est un peu comme quelqu'un d'écorché vif, qui recherche à la fois une enveloppe pour apaiser la difficulté de contact, et puis un socle qui vienne la porter.
C'est deux choses.
Un peu comme un nouveau-né, finalement,
mais
où il a une peau très fragile et il a besoin qu'on l'enveloppe, qu'on le protège, qu'on le materne, et qu'on le porte, parce qu'il ne peut pas se porter tout seul.
Mais alors, chez l'enfant, c'est normal, il faut que.
Voilà,
c'est le bébé, mais après, ça devient problématique. Alors, on va revenir sur tout ça. Hein. Et pour l'instant, on va écouter, cette fois-ci, c'est Michel Delpech. Voilà, il faut que j'aime.
Radio Notre-Dame.
Parfois je mets les infos sans zapper la décadence et sa mentale. Entre la violence et le fou, faudrait que mon cœur balance, parce que je stagne à tout espérer de l'homme à y croire, au lieu de faire indifférence à part. Je me dis en somme l'idéal serait de n'aimer personne, vraiment personne. Croquer le fruit sentimental et ne penser qu'à ma pomme, grand minimum. Ceux qui aiment s'aliènent et se font mal, pas s'attacher, liberté totale. Mais malgré tous mes efforts, mes résolutions les plus fermes pour rester l'âme en berne, oui, malgré tous mes efforts. Je tiens une heure et encore, et les ennuis reviennent, il faut que j'aime. Et puis je me dis, si ça se trouve, il n'y a même pas d'au-delà, pas d'enfer. À quoi ça sert que je me bouge à donner de l'amour là, sur la terre? Pourquoi perdre son temps à donner tout? Souvent la gratitude est au bout, mais malgré tout mes efforts, mes résolutions les plus fermes pour rester là en berne, oui, malgré tout efforts. Je tiens une heure et encore, et les ennuis reviennent, il faut que j'aime. Malgré tous mes efforts, mes résolutions les plus fermes pour rester à mon berne, oui, malgré tout efforts. Je tiens une heure et encore, et les ennuis reviennent, il faut que j'aime. Mes résolutions les plus fermes pour rester là m'emmerde, malgré tous mes efforts. Je tiens une heure et encore, et les ennuis reviennent, il faut que j'aime.
Il faut que j'aime, Michel Delpech. Comment sortir de la dépendance affective? Nous allons écouter tout de suite Sylvie qui est en ligne. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Sylvie.
En fait, moi je voudrais, j'appelais ce soir pour témoigner en fait. Moi, j'ai pris l'émission en cours, hein, mais je connais le psychothérapeute qui parle. Excusez-moi, je me souviens plus.
Pascal Pariné.
Bonsoir Pascal, bonsoir Chantal. Bonsoir. Alors moi, ce que j'ai dit à la personne que j'ai au téléphone, c'est que quoi qu'il arrive, en fait, très souvent, je me sens abandonnée. Voilà. Et j'ai fait une psychothérapie pendant des années. D'ailleurs, je continue à en faire une. Donc, ça m'a considérablement aidée, si vous voulez. Mais je me demande pourquoi aujourd'hui, à 47 ans, quand même tout de même, que je me sens comme ça, seule finalement, alors que je suis quand même j'ai des amis, j'ai une famille qui est de plus en plus présente. Enfin, vous voyez, en thérapie, j'ai quand même travaillé autour de ça.
Ouais.
Et du coup, alors j'ai quand même précisé, ce qui n'est pas moindre, à la personne que j'ai au téléphone, que je me suis fait, en fait, si vous voulez, mon père m'a abusé sexuellement lorsque j'étais adolescente. Mmh. Et c'est pas rien, vous voyez, comme traumatisme, hein, ouais, du tout. Donc, alors comme me disait la personne, mais qui était au courant à l'époque? Personne. Donc moi j'ai gardé ça pendant des années, j'ai dit ça à 18 ans, voilà. Mm. Et du coup, la personne me disait quelque chose d'assez judicieux, elle me disait, mais c'est pas étonnant que vous vous sentiez finalement abandonné, puisqu'on vous a abandonné finalement. Du coup, je me dis, mais est-ce que tout ça... J'ai l'impression que c'est récurrent chez moi, c'est quelque chose qui me... Alors, quand on parle dépendance affective, effectivement, on est beaucoup bossé, travaillé autour de ça, quand même.
Il y a une blessure, là, quelque part, sûrement.
Bien sûr qu'il y a une blessure,
oui.
Une blessure, c'est un traumatisme, si vous voulez.
Oui.
Mais...
Profonde, oui.
Ouais, mais j'ai bossé aussi autour de ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose, j'ai pas les bras ballants, rien fait. Je continue d'ailleurs à poursuivre ma thérapie. J'ai jamais lâché le prise, quoi. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est récurrent. Et du coup, je sais plus, j'allais dire, à quel saint me vouer. C'est-à-dire que même parfois, j'ai l'impression que Dieu m'abandonne et peut-être qu'il me lâche aussi pour que je puisse grandir davantage. Vous voyez, parfois je suis assez, j'ai l'impression que c'est récurrent. Je me dis si toute ma vie ce sera comme ça, alors je, c'est quelque chose qui est assez surprenant finalement, quoi.
Alors il y a deux choses, il y a le sentiment d'abandon et il y a la solitude. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose.
Bah, je dirais les deux, quoi.
Ouais. Alors le sentiment d'abandon, ça s'enracine dans une expérience. Et souvent dans une expérience, alors qui peut être bénigne. En apparence pour l'adulte, hein, c'est pas forcément un traumatisme, mais qui est vécu par l'enfant comme quelque chose de traumatisant. Et c'est cette expérience-là qui est à retrouver en thérapie et à réélaborer différemment. Et parfois, ça peut donner, quelque chose. Ça peut être quelque chose que l'enfant ne peut pas assumer aussi, ou quelque chose où il assiste à quelque chose qu'il ne peut pas assumer, et du coup, il se sent seul et abandonné.
Alors, est-ce qu'on peut guérir de ça finalement, parce que quand même, j'ai bossé. Enfin, je continue à bosser en thérapie. Enfin, vraiment, on a travaillé quand même autour de ça. Les choses se sont quand même considérablement améliorées en ce qui me concerne. Vous voyez. Je me dis, mais Dieu du ciel, mais tous les jours jusqu'à la fin de mes jours, ça sera jusqu'à mon dernier souffle, je ressentirai ça. Mais alors, comment faire?
Alors, guérir, suivant ce qui s'est passé, ça peut être guérir avec une cicatrice. Donc, avec une sensibilité à toute situation qui présente un risque de séparation, d'abandon ou autre. Mais avec la capacité à la gérer.
Alors ça, je pense que je le gère de mieux en mieux. Mais malgré tout, il y a des périodes où c'est âpre. C'est difficile. Ça reste quand même difficile, quoi. Voilà.
Ouais, ça veut dire que peut-être il y a encore quelque chose. Vous savez, la psychothérapie, alors il y en a pour s'amuser qui compare ça à éplucher un oignon. C'est-à-dire que avant de trouver vraiment le noyau, faut enlever les différentes couches, un peu comme quand on épluche un oignon. Et puis le côté oignon, c'est parce que parfois ça fait pleurer aussi.
Ah ben voilà, ce que me disait Guillaume, compris.
Qu'est-ce que j'ai pleuré, je vous dis pas. Hein.
Comme quand on épluche un oignon, voilà.
J'en ai épluché plusieurs, moi, oignons. Hein.
Voilà, mais il y a un moment où on arrive au noyau ça résout ce qui s'est passé. Alors ça, c'est pour l'abandon. Après, il y a un autre aspect qui est la solitude, qui peut être un aspect existentiel. C'est-à-dire que finalement, quand on vit, il peut arriver à un moment de prendre conscience. Alors peut-être pour le coup, ce qui vous est arrivé avec votre père, vous avez pris conscience que vous étiez seul au monde parce que personne n'a été là pour
pour maman n'a rien vu,
pour vous protéger, on peut prendre conscience comme ça à certains moments de la vie qu'on est seul au monde et ça renvoie à une solitude, solitude, séparation un peu. Mais ça, c'est une solitude existentielle qu'on peut apprendre à assumer. Et puis la foi aussi permet de dépasser cette solitude existentielle, parce que même si on est seul au monde, physiquement, on n'est jamais seul.
C'est ce que je disais à la dame que j'ai eue en premier au téléphone, effectivement, heureusement que j'ai la foi, parce que, heureusement, hein, ça se dit.
Est-ce que justement, certains traumatismes comme ça, c'est la seule solution, n'est peut-être... Enfin, on peut gérer, mais pour dépasser, est-ce que...
Je pense que la première chose, c'est la psychothérapie qui va permettre de...
D'éplucher les différentes couches.
En tout cas, de résoudre tout ce qui peut être résolu, même s'il reste toujours une cicatrice à des événements comme ça. Après, la foi, elle va plus concerner l'aspect existentiel et pas l'aspect traumatique. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'expérience traumatique, ça va être la psychothérapie qui va permettre de régler, alors avec plus ou moins de succès. Et puis la foi, ça va concerner l'aspect existentiel, parce que c'est vrai que nous sommes tous seuls au monde à partir du moment, à partir de la naissance.
Oui. On a coupé le cordon ombilical, voilà, donc
Et on est seul. Alors, et plus on grandit, plus on prend conscience de cette solitude, parce que au début, il y a encore les parents qui font attention, qui s'occupent beaucoup de nous, et puis au fur et à mesure, après, on quitte nos parents. Alors, et là, ça, on peut compenser cette solitude existentielle par des dépendances affectives. Mais ça fonctionne pas bien.
Merci beaucoup. Mais ce que je me rends compte surtout, et c'est pas en vous le disant, c'est qu'en fait, on n'a pas regardé ce qui s'est passé avec mon père.
Non,
j'en suis pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire.
Et vous n'allez pas dans la thérapie.
Non, j'en suis pas encore là. C'est peut-être trop encore. Oui. Et puis mon père nous a abandonné, m'a abandonné totalement après. Il s'est jamais occupé de nous, de moi et ma sœur. Donc. Et puis mon beau-père nous a assez désolidarisé de nous et nous a abandonnés. Là, il y a peu de temps.
Ah oui, donc l'abandon encore.
Oui, encore l'abandon. Et du coup, ça, ce qui s'est passé avec mon Victor, en fait, on n'en est pas encore là. On en est, mais 10 ans quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas rien.
C'est douloureux,
C'est super douloureux. Et du coup, je désespère pas un jour que je puisse regarder ça et mettre des mots, quoi, sur ce que j'ai vécu et du coup, mais comme c'est un père qui est ensuite absent complètement, vous voyez, c'est ça aussi. S'il a jamais été là. Donc, en fait, c'est compliqué aussi de regarder cet événement.
Oui, mais...
Il a jamais été là, présent, du coup. Donc,
il a été et trop présent et pas assez, les deux. Trop présent dans cet inceste et trop absent aux autres moments.
Donc, pas ajusté,
pas dans une attitude juste.
C'est pour ça que j'ai du mal à travailler autour de ça. Vous voyez, souvent, je reviens en arrière. Et puis, bon, beaucoup de soucis avec ma maman aussi, qui du reste nous a abandonnés aussi un petit peu. Donc, vous voyez, c'est beaucoup aussi une histoire d'abandon, quoi. Abandonné par les adultes et du coup... Donc c'est pour ça qu'à l'âge que j'ai, peut-être je me sens parfois c'est au bord du
voilà. Et c'est pour ça que à la fois vous avez besoin d'aller travailler en psychothérapie ce qui s'est passé et en même temps ça sera au moment où vous serez prête. Et c'est pas le psychothérapeute qui peut mettre les pieds dans le plat, en quelque sorte. C'est vraiment au moment où vous allez être prête, vous allez le sentir, où vous aborderez la question un peu plus en profondeur.
Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et je remercie aussi la dame que j'ai eue en premier, avec qui on a un petit peu discuté. J'ai trouvé tout à fait important ce qu'elle me disait... Merci Chantal pour vos émissions.
Merci à vous d'avoir
vous
exprimé.
Merci Pascal.
Bonsoir.
Bonsoir et bonne route Sylvie.
Merci.
Bonsoir. Alors on peut peut-être revenir sur certaines difficultés. Là par exemple Sylvie, elle fait une thérapie, elle apprend aussi à mettre des mots sur sa difficulté, mais...
Oui, alors c'est une des difficultés dans la dépendance affective, d'arriver à exprimer son besoin.
Oui.
Et à mettre des mots dessus. Alors déjà, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce que la personne perçoit, c'est le manque et non pas le besoin. Donc, il faut déjà passer du négatif au positif.
Oui.
Et puis ensuite, c'est comment on peut dire à l'autre, j'ai besoin que tu m'aimes, parce que je dépends de ton amour pour exister. C'est fort comme phrase de dire ça. Mais dans la dépendance affective, c'est ça. C'est-à-dire que...
Il faudrait pouvoir le dire, ou au moins le reconnaître
que sans l'amour des autres, la personne n'a pas le sentiment d'exister. Et que c'est l'amour de l'autre qui lui donne ce sentiment. Voilà. Et ça, c'est difficile à reconnaître, déjà à prendre conscience et à reconnaître, et encore plus difficile à dire. Voilà. Et à la place de ça, ben, elle adopte tout un tas de comportements inadaptés pour essayer de se faire aimer et pour se sentir exister. Voilà. Mais ce qui est à retrouver, c'est finalement le sentiment d'exister. Par soi-même, parce que c'est intrinsèque. On existe, c'est pas l'autre qui nous fait exister.
Ah oui.
On existe parce qu'on est une créature vivante. Voilà.
Et c'est là où on va pouvoir entrer en relation véritable.
Et donc, c'est là où on peut vraiment entrer en relation.
Et donc, aimer en vérité. Enfin, tout
oui.
Autrement...
Aimer en vérité, en acceptant et cette séparation de l'autre, mais par la relation, on peut être en lien. Et la différence aussi de l'autre, que chacun a ses propres besoins, ils ne sont pas forcément synchrones, ils peuvent être différents. Donc, d'accepter et la différence, mais que par la relation, on peut créer du commun.
Merci, Pascal Parinet. Donc, comment dire à l'autre, j'ai besoin que tu m'apprécies, que tu m'aimes, je dépends de ton amour pour exister. Dans cette impossibilité-là, quel comportement la personne va-t-elle adopter?
Ben, c'est un peu ce qu'on disait, les comportements adhésifs. Elle va essayer de faire plaisir à l'autre, de se mettre à son service, se plaindre du manque d'attention... Elle va essayer de se conformer à une image qu'elle imagine qu'on attend, que l'autre attend. Un peu comme si l'autre avait la même attente qu'elle.
Oui, mais non.
Mais non.
C'est ça le problème.
L'autre est différent.
Et
ce qui fait que, d'une certaine façon, elle va envahir un peu l'espace vital de l'autre. On a tous un espace vital, mais physique, autour de nous. Et on sent quand quelqu'un s'approche tout près de nous, ça nous gêne. On a l'impression qu'il
entre dans une
qu'il entre
zone
dans notre zone personnelle.
Personnelle, oui.
Ben, la personne dépendante, c'est ce qu'elle fait psychologiquement. Pas forcément physiquement.
Mais psychologiquement.
Mais psychologiquement, elle va entrer dans cet espace. Et chez l'autre, ça va occasionner une répulsion qui va rééloigner.
Sauf si... ça fonctionne.
Alors, sauf
mais
si ça fonctionne.
Mais c'est pas l'idéal.
Voilà, c'est pas idéal. Ça peut arriver que l'autre y trouve une valorisation, finalement. Parce que.
Il se sent aimé,
d'une façon un peu exceptionnelle.
Oui, quand il le vit comme ça, oui.
Voilà, mais ça, le problème, c'est que ce type de relation, ça dérive souvent sur des relations un peu sadomasochistes, c'est-à-dire où il va y avoir un peu de la violence, ou en tout cas...
Une emprise, ou...
Voilà, ou en tout cas des rapports de force. Des rapports de force qui
dominant,
vont...
Dominant-dominé, me dit Guillaume, dans voilà. Le
casque. Eh bien, voilà. Il...
Voilà, il... voilà. Il...
Donc, des rapports de force, de domination qui vont se jouer dans la relation. Mm-hmm.
Donc, ça ne va pas être...
Ça ne va pas être une relation facile.
Ouais, oui, oui, oui. Oui, tantôt l'un va dominer, tantôt l'autre. Enfin, bon, c'est conflictuel, on peut dire.
Conflictuel, ouais. Oui.
Voilà, alors pour ne pas être conflictuel avec la pendule, on va écouter tout de suite, puisque c'est le moment, Jacques Brel, « Quand on n'a que l'amour », eh bien oui, c'est là, en sortant de, si on peut sortir de cet état de dépendance affective pour vivre vraiment l'amour.
Radio Notre-Dame.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
Jacques Brel, quand on n'a que l'amour. Alors, avant de passer à comment guérir de cette dépendance affective, pouvez-vous répondre à Marie-Christine qui pose cette question. Si une amie qui vit des relations sans lendemain et à répétition, est-ce une dépendance affective?
Alors, ça faudrait éclaircir le sans lendemain à répétition. À quelle durée, parce que ça peut être une difficulté relationnelle ou une difficulté à s'engager, par exemple.
Oui.
Et du coup, au bout d'un moment, quand la personne arrive au moment de l'engagement, ça casse et puis elle va construire ailleurs et se retrouver face à la même difficulté d'engagement. Donc ça pourrait être ça. Le côté répétitif fait quand même penser sans lendemain répétitif fait quand même penser à la dépendance affective. C'est-à-dire que elle cherche à créer une relation forte et comme ça fonctionne pas ou que ça n'arrive pas,
ça n'aboutit pas,
eh bien elle est dans une répétition. Oui. Voilà, mais Mais finalement, il n'y a que si on pouvait parler avec la personne vraiment concernée.
Concernée, oui, voilà, c'est ça.
Qu'on pourrait.
Alors maintenant, parce qu'on a, on arrive à la fin, voir comment, comment guérir de la dépendance affective. Parce que c'est là le. Comment en sortir ?
Oui, bah la première des choses, c'est de prendre conscience de son fonctionnement et donc de réaliser qu'il s'agit de dépendance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dépendants affectivement et qui ne sont pas conscients d'être dépendants.
Alors c'est la prise de conscience, ça c'est le premier.
Être dépendant, et ça ne vient pas des autres, ce n'est pas les autres qui... qui répondent pas à...
Oui, c'est ça. C'est bien d'un... Voilà,
c'est un problème personnel qui ne vient pas des autres, mais c'est...
C'est toujours comme ça. C'est faux. Non pas projeter sur l'autre, mais voir en soi-même, oui.
Et puis, en étant conscient, de prendre la responsabilité aussi de se faire aider. Parce qu'il ne suffit pas d'être conscient. Après, il faut faire quelque chose.
Donc, être aidé.
Alors, à partir de là, on va avoir différentes choses qui vont permettre d'en sortir. La première chose, c'est de retrouver le contact avec son ressenti. On a vu que la personne n'est pas en contact avec son corps. Et donc, il s'agit de retrouver les sensations corporelles. D'apprendre à les nommer. Parce que souvent, la personne a du mal à nommer, à reconnaître à quoi correspondent ses sensations. Et puis, à un moment, mais alors ça, c'est dans le cadre de la thérapie, et au moment où la personne est prête d'affronter son angoisse. Et voilà. Parce que il y a aussi, on disait, un évitement de l'angoisse. Donc, ça veut dire qu'à un moment, la personne va affronter son angoisse, mais ça ne peut se faire que dans un cadre sécurisé de thérapie.
Donc, affronter son angoisse, parce que je voyais sur un magazine connu, dans les kiosques, comment mater son angoisse.
Ah oui, j'ai vu ça, je l'ai vu aussi, oui.
Je me suis dit, tiens.
Mater, affronter, c'est
plus, je sais pas.
Oui, c'est plus faire face à son angoisse,
oui, là, c'est ça, oui.
Ce qui permet et de la traverser et de la gérer. D'apprendre à gérer le sentiment de manque ou de vide, d'abord parce qu'on ne peut pas combler le vide. Ça, c'est impossible.
Qu'est-ce qu'on fait alors, puisqu'on ne peut pas le combler?
On peut le contempler.
Voilà, donc...
Lorsqu'on accueille le vide, à ce moment-là, il devient fertile. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait dans la prière, finalement. On fait un vide intérieur. On essaye de se couper de ses préoccupations, de ses pensées, de sa journée. Pour accueillir un espace vide, mais qui n'est pas un vide angoissant.
Où une relation va pouvoir se vivre.
Qui est une vacuité. Ou de là, il y a quelque chose de fertile qui peut germer. Alors, ça peut être dans la prière, c'est la relation avec Dieu. Ça peut être aussi des prises de conscience, d'intuition, des désirs qui vont émerger.
Oui, dès qu'on fait, on laisse une vacuité, va pouvoir émerger
quelque chose.
Oui.
Et ce quelque chose, on pourra le gérer parce que c'est du positif. On peut pas gérer ce qui n'existe pas, le manque, l'absence, ça n'existe pas.
Non. Tandis que là, ce qui émerge...
On peut gérer ce qui émerge.
Prise de conscience, désir, intuition, voilà. Oui. Ensuite...
Découvrir son véritable besoin. Et donc... Ce contact avec le corps et le fait de retrouver ses sensations, ça va permettre à la personne d'être vraiment consciente de son véritable besoin et surtout de pouvoir l'exprimer et le mettre en mots. D'inverser Ensuite, le mouvement intérieur, parce que là, pendant, c'est, j'ai parlé de, du négatif photo, mais c'est de la même façon, c'est un mouvement qui est tourné vers l'intérieur, qui aspire, un mouvement en creux qui aspire, un peu comme la fin. Et du coup, l'inversion de ce mouvement, c'est finalement l'expression du besoin ou du désir qui va mettre en action la personne. Voilà, au lieu d'être en creux,
Elle va sortir, elle va, pour agir.
Voilà, elle va pouvoir agir dans l'environnement. Et ce mouvement en creux, finalement, c'est l'angoisse qui est à l'origine. C'est un peu comme une dépression météorologique.
Oui, c'est ça, ça.
Où la dépression va aspirer l'air et créer des vents, et etc. Mais là, de la même façon, il s'agit d'être, de mettre en son psychisme, mais ça se passe beaucoup au niveau du ventre d'ailleurs, en anticyclone, plutôt qu'en dépression.
D'accord.
Voilà, mais ça, ça c'est un mouvement que, qui se passe en thérapie, c'est comme un tournement.
Oui, alors le rôle du thérapeute, qu'est-ce qu'il va apporter là, dans cette situation, qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer comme rôle?
Alors, ben, il a un premier rôle qui va être de servir de support à la personne.
Parce qu'elle cherche un support.
Voilà, parce que et donc là, elle va trouver une personne solide qui pourra supporter.
C'est ça,
les aspects envahissants et
elle saura gérer ça. C'est
voilà,
son rôle.
Il saura le gérer.
Donc arrêter cette hémorragie.
Arrêter cette hémorragie. Il y a un autre aspect, alors un peu spécifique de la thérapie, c'est que la personne va vivre régulièrement de retrouver son thérapeute, mais aussi de le quitter.
Ah oui, donc la séparation est...
Voilà.
Ah oui.
Elle va vivre donc à chaque séance. Une séparation, et elle va apprendre comme ça aussi à devenir indépendante de l'autre, finalement.
Oui,
elle va progressivement apprendre à sortir de la dépendance, parce que
le thérapeute, eh ben, oui, elle le...
Voilà, et puis elle va prendre conscience un jour que le thérapeute n'a pas qu'un ou qu'une patiente, qu'il en a des autres.
Eh ben oui. Heureusement pour lui.
Le thérapeute n'est pas entièrement n'appartient pas à la personne dépendante. Il y a d'autres personnes aussi.
Donc elle s'en rend compte. Donc c'est une thérapie déjà, ça.
Et
cette prise de conscience.
Tout ça, ça participe aussi de la guérison de la dépendance. Et puis, il va aider la personne à retrouver son contact avec les sensations et surtout à inverser le mouvement, à inverser le mouvement en elle.
Oui.
Et donc, à lui permettre de retrouver un élan vital qui s'exprime vers l'extérieur et vers l'action. Voilà, en gros, on pourrait comparer un peu l'image d'un nageur pris dans un tourbillon. Il faut qu'il retrouve le sol du fond de la rivière pour sortir du mouvement tourbillonnaire et pouvoir s'éloigner et ne plus être entraîné vers le bas. Voilà, et ça, le thérapeute est là un peu pour accompagner ce mouvement de sortie du tourbillon.
Donc là, on arrive presque à la fin, j'entends la petite musique.
Voilà, et une fois que ce mouvement est inversé, eh bien, la personne va retrouver d'elle-même son sentiment d'exister indépendamment des autres. Alors ça, c'est tout le travail de la thérapie au fur et à mesure.
Elle va retrouver sa valeur, du coup.
Elle va retrouver sa valeur, son sentiment d'exister.
Elle retrouve sa propre portance, tout ça.
Voilà.
Et elle peut aller à la rencontre des autres et agir sur l'environnement. À partir de ce moment-là, elle tourne vers l'extérieur.
À partir de ce moment-là, elle va se tourner vers l'extérieur, non plus dans la dépendance, mais dans la relation.
Un grand merci, Pascal Parinet. Donc, je rappelle, hein, les deux, 23 et 24 mai, sortir de la dépendance, hein, et puis confiance en soi, le 3 et 4 juillet. 06 60 15 79 60 et puis ifpsy.com pour tout contact. Voilà, donc les renseignements sont au standard. Un grand merci. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à Marielle, au standard, Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD et en podcast. Demain à 22h, écoute dans la nuit, notre invitée sera Elisabeth Sombard, pianiste, fondatrice, créatrice de la fondation Résonance et femme de profonde spiritualité. Le thème de la soirée, le geste musical, chemin et réconciliation possible, du visible dans l'invisible. Elisabeth Sombard donnera un concert ce dimanche 14 février à 17h30, salle Cortot à Paris. Elle interprétera les deux concertos de Chopin, version musique de chambre, avec le quatuor Résonance. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous et je vous dis à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.